Bonjour, cher frère. J'espère que vous profitez de ce beau temps ensoleillé que nous connaissons. Où que vous soyez dans le monde, vous ne bénéficiez peut-être pas de la même chose. Mais vous me regardez, et quand je regarde autour de moi, je vous regarde. Comment cela fonctionne-t-il? Revenez en arrière et demandez-vous, qu'est-ce que cette question veut dire? Comment se fait-il que vous me regardiez et que je puisse vous regarder et vice-versa? Cela ne change pas vraiment si nous parlons de la caméra. Vous me regardez, et je peux regarder la caméra, qui vous regarde en fait. Nous pensons rarement à la façon dont nous nous regardons les uns les autres ou à la façon dont nous nous regardons en général à travers notre vue, notre vision, nos yeux. Jusqu'à ce que vous ayez un problème avec vos yeux, vous pensez rarement à vos yeux. Lorsque j'ai commencé à prendre de l'âge et que les choses devenaient floues à des distances plus rapprochées, c'est la première fois que j'ai vraiment pensé à mes yeux. Normalement, ils sont juste là. C'est comme n'importe quelle autre partie de votre corps que vous utilisez. On n'y pense pas jusqu'à ce que quelque chose se passe mal. Cela fait maintenant quelques mois que j'ai un drôle de problème au niveau du deltoïde de l'épaule, mais je n'avais jamais pensé à mon épaule ou à mon muscle deltoïde, jusqu'à ce que je fasse quelque chose avec et qu'il cesse de fonctionner comme il le ferait normalement. Mais pour que vous et moi puissions nous voir, il faut qu'il y ait une interaction entre beaucoup de choses. Vos yeux ou les miens peuvent voir la personne opposée ou tout ce que nous voyons. Tout d'abord, vous regardez la pièce, et nous avons besoin de certaines choses fonctionnelles pour que vous puissiez me voir. Tout d'abord, il faut que la lumière soit allumée. Si ce n'était pas le cas, il faudrait que le soleil entre dans la pièce, car sans lumière, on ne verrait pas. C'est aussi simple que cela. Une pièce sans lumière est une pièce pleine d'aveugles, même si nous avons des yeux parfaitement fonctionnels. Levez la main, quelqu'un a-t-il déjà été dans une grotte où l'on s'enfonce profondément, où l'on vous emmène à l'intérieur, où l'on éteint la lumière, où vous agitez votre main devant votre visage, et où vous ne pouvez même pas dire, sauf peut-être si votre souffle touche votre main, que votre main est juste à quelques centimètres devant votre visage? Là encore, pas de lumière, pas de vue. Vous avez besoin de cet élément pour agir. Avant de pouvoir comprendre ce qu'est la vue, nous avons besoin de cet ingrédient qu'est la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Aujourd'hui, je vais aborder cette question d'un point de vue un peu scientifique, puis je la relierai évidemment à la Bible. La lumière n'est donc qu'un rayonnement électromagnétique. Tout, depuis les ondes qui génèrent la chose, cuire vos aliments dans votre micro-ondes jusqu'aux lumières provenant des ampoules électriques, en passant par les rayons X. Tout cela est un champ électrique ou magnétique qui peut transporter de l'énergie et qui va de très, très basse fréquence. Pensez aux radios M. Vous vous souvenez de la radio M? La plupart des gens ne s'en souviennent probablement pas. Mais les radios M fonctionnent à une fréquence très basse, d'environ 1000 kHz. De l'autre côté, il y a les rayons gamma. Les rayons gamma sont à très haute fréquence et ils peuvent vous tuer ou vous transformer en l'incroyable Hulk si vous croyez la télévision. Mais non, ils vous tueront. Rayonnement très intense émis par les étoiles et les éléments du système solaire. Ce que nous voyons, toi et moi, n'est qu'une infime partie de cet immense spectre de rayonnements électromagnétiques. Nous l'appelons la lumière visible. Tout ce qui se trouve en dehors de ce spectre est appelé lumière invisible ou tout le reste. Mais ce que nous voyons, c'est la partie visible de la lumière, qui s'étend, en termes de fréquence, si vous aimez ce genre de choses, de 380 à 750 Hz environ. Il s'agit donc d'une fréquence assez élevée pour générer de la lumière. ou si vous le mesurez avec la longueur d'onde réelle, c'est juste. Plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est faible. Remontez dans le temps, dans les sciences, vous vous souvenez de l'onde sinusoïdale que vous voyiez à l'école? Plus la fréquence est élevée, plus elle est rapide, plus l'onde sinusoïdale se resserre, et la distance, la longueur d'onde entre chacun de ces mouvements vers le haut ou vers le bas, diminue. Ainsi, la longueur d'onde de ce que nous voyons va d'environ 400 nanomètres à environ 700 nanomètres, ce qui correspond au violet, l'un des côtés du spectre de la lumière visible, et à environ 700 nanomètres, ce qui correspond au rouge. Du violet au rouge, en passant par toutes les couleurs que vous et moi voyons entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas conçu le spectre de la lumière visible pour qu'il soit la limite absolue de ce que les hommes ou les animaux peuvent voir. Les abeilles, par exemple, peuvent voir dans le spectre ultraviolet. Leur vision n'est donc pas vraiment meilleure que la nôtre. Elle est simplement plus décalée, de sorte qu'elle voit plus d'ultraviolet, ce qui fait que des choses comme les fleurs se reflètent différemment pour les abeilles, que nous ne pourrions pas voir parce que notre vision n'est pas aussi décalée. Nous sommes à une longueur d'onde inférieure. D'accord, c'est de la lumière, mais comment cela nous permet-il, à vous et à moi, de voir? Ce ne sont que des photons qui rebondissent. Comment cela transforme-t-il ce que vous et moi voyons se produire chez des individus qui regardent d'autres individus ou des choses, ou votre Bible, ou votre stylo, votre bloc-notes, peu importe ce que c'est? Comment cela, ces photons qui rebondissent dans vos yeux, comment cela change-t-il? Nous allons donc revenir à la pièce. Lorsque la lumière pénètre dans l'œil, elle traverse la cornée, qui est la couche avant-transparente de l'œil et qui a la forme d'un petit dôme. Elle a la forme d'un petit dôme. Si vous avez, comme moi, un léger astigmatisme, oui, c'est encore nouveau pour moi, mais cela signifie qu'il y a une légère déformation de ce dôme, et les lunettes peuvent parfois corriger cela. Cela entre donc en ligne de compte, et il y a ensuite les pupilles. Si vous utilisez un appareil photo, vous pensez à l'obturateur ou à la quantité de lumière qu'il laisse entrer. C'est la même chose pour les pupilles. Elles s'ouvrent et se ferment pour contrôler l'intensité de la lumière. Plus la pièce est lumineuse, plus vos pupilles sont petites. Plus la pièce est sombre, plus elles sont grandes. Dans le cas d'un animal comme le chat, les pupilles s'ouvrent très largement et peuvent voir dans l'obscurité la plus totale. Ils ont juste besoin d'un tout petit peu de lumière pour pouvoir voir. L'iris, la partie colorée, contrôle la pupille et la focalise. La lumière passe à travers, puis elle va vers le cristallin de votre œil, ce qui est très intéressant pour le cerveau, car le cristallin retourne l'image à l'envers. Beaucoup d'entre vous le savent peut-être, l'image arrive au cristallin, ce que font tous les cristallins. Elles ont tendance à se retourner, et il faut ensuite une autre lentille pour la retourner à l'envers. C'est pourquoi, dans les jumelles et autres, il y a deux lentilles pour remettre l'image dans le bon sens. L'image descend et frappe un point focal à l'arrière de l'œil, à l'envers, et active les photorécepteurs de la partie sensible à la lumière à l'arrière de l'œil. Ces photorécepteurs sont alors stimulés et génèrent de l'électricité qui descend le long du nerf optique jusqu'au cerveau. En gros, ce qui se passe, c'est que les photons stimulent un nerf qui envoie des signaux au cerveau. Le cerveau reçoit ces signaux et, en effet, c'est ce qu'il fait, il construit une image à partir de ces signaux. Le cerveau est une chose étonnante. Peu importe qu'il s'agisse du cerveau d'un crapaud ou de celui d'un être humain. Tout ce que vous et moi voyons est une fabrication complète de ce qui existe. C'est votre cerveau qui l'invente. C'est pourquoi le monde est à l'endroit. Les signaux entrent dans votre cerveau à l'envers, mais votre cerveau retourne l'image à l'endroit, et vous et moi pouvons voir les choses à l'endroit. Des tests ont été effectués sur des personnes portant des lunettes qui ajoutent une autre inversion, de sorte que les signaux entrent dans le cerveau à l'envers. Vous mettez donc ces lunettes et, soudain, le monde se met à l'envers. Mais avec le temps, votre cerveau s'autocorrige et retourne l'image à l'envers. Tout ce que vous et moi voyons est essentiellement fabriqué par le cerveau. Mais le cerveau n'a rien pour travailler s'il n'y a pas de lumière. Sans lumière, pas de vue. La lumière est donc importante. Et pour pouvoir voir, nous devons la voir. C'est très important. C'est la première chose que Dieu a fait lorsqu'il s'est mis au travail. Allons au chapitre 1 de la Genèse. Il a donné le coup d'envoi et s'est concentré sur la lumière. Genèse, chapitre 1 et verset 1. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord. Et puis des milliers d'années ont passé, la rébellion de Satan, toutes les choses qui sont allées, qui sont arrivées et qui ont causé le désordre de l'univers. Et au verset 2, la terre était sans forme et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Après la rébellion de Satan, la terre n'était plus qu'un globe d'eau et de boue. On pourrait dire que l'atmosphère était complètement déréglée, qu'elle bloquait tout ce qui pouvait exister. C'était une planète morte. On peut penser à n'importe quelle planète que l'on voit aujourd'hui, et il y a des planètes qui sont couvertes de glace et d'eau et qui sont sèches, comme Mars, et la planète était pratiquement détruite. Qu'a fait Dieu? Il poursuit ici. À la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit. La première chose qu'il a faite a été de permettre la lumière. Cela aurait déjà été le cas. Il n'a pas recréé les étoiles, mais l'atmosphère aurait été dans un tel état que la lumière n'aurait pas pu passer. Il a donc dit, que la lumière soit et, bien sûr, la lumière a été créée. Soudain, une planète sur laquelle vous et moi nous trouvions aurait été plongée dans les ténèbres, nous n'aurions rien pu voir parce que, sans lumière, il n'y a pas de vue. Au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu l'a vu. Parce que, bien sûr, il l'a vu. Il avait besoin de lumière pour voir aussi. Et vous verrez que la lumière de Dieu est essentielle pour que nous puissions voir. Et c'était bon, puis Dieu a séparé la lumière des ténèbres. C'est ainsi qu'il y a eu le jour et la nuit, et cela a continué. Mais la première chose à faire lorsque Dieu a recréé la terre pour la préparer pour l'homme a été d'apporter la lumière. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Explorons la relation complexe entre la lumière et la vue, à la fois physique et spirituelle. Cela nous aidera à vivre en tant que chrétiens et à comprendre notre Créateur. Pensons donc à Dieu, et nous allons faire un petit tour d'horizon avant de passer à un sujet plus personnel. Pensez au Dieu de la Bible, le Créateur de l'univers. Nous savons qu'il y a certains termes dans la Bible que le monde protestant a rendu très inconfortable pour les vrais chrétiens. C'est l'une des rares choses qui m'enthousiasment. Dieu est amour, alors quand on commence à parler de l'amour de Dieu, en tant que vrai chrétien, il faut presque lutter contre un petit sentiment du genre « Oh, c'est un peu trop gluant, un peu trop protestant quand on parle de l'amour de Dieu » ou « Mais Dieu se décrit lui-même dans, comme dans le premier Jean, comme l'amour. » Vous ne devriez donc pas être gêné par ce que vous ressentez ou ce que vous entendez parce que les faux chrétiens le rendent faux. Mais les vrais chrétiens croient en la parole de Dieu, la Bible, et prennent les termes qu'ils se donnent pour essayer de comprendre ce qu'ils signifient pour mieux comprendre Dieu. Allez au premier chapitre de Jean. Nous allons examiner un autre terme que Dieu utilise pour se désigner lui-même. Vous savez peut-être déjà où je veux en venir, mais 1 Jean, chapitre 1 et verset 4. 1 Jean 1, 4. Et je vous écris ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Alors, voici donc le message que nous avons entendu d'eux et que nous leur annonçons, Dieu est lumière. Dieu est lumière, tout comme Dieu est amour. Il ne se contente pas de produire de la lumière, il est la lumière. C'est important. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il ne peut pas y avoir de ténèbres. Il est sans péché. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, c'est un autre élément. Dieu est donc lumière, et pourtant il est dans la lumière. Il y a donc les deux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est dans la lumière et il est lumière, et il nous est ordonné de marcher dans cette lumière. Ainsi, lorsque vous commencez à parler du Dieu de la lumière, c'est l'un de ces termes qui a une connotation protestante et dont les gens parlent en disant « Oh, c'est la lumière, la beauté de Dieu ». Non. C'est ainsi qu'il se décrit, mes frères. Nous ne devrions pas laisser des termes qui ont été altérés, changer ou réduire, modifier notre façon de voir l'être qui non seulement est lumière, qui se prélasse dans sa propre lumière, mais dont la première tâche, lorsqu'il a recréé la terre, a été de séparer les ténèbres de la lumière. Allons au chapitre 1 de Jacques. Apprenons-en un peu plus sur Dieu et sa lumière, si vous voulez. Jacques, chapitre 1. Commençons par le verset 17. Jacques 1, 17, et tout don bon et parfait d'eux, vient en haut, et descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variabilité, ni ombre de changement. Il n'y a pas de variable. Il est une source de lumière qui ne vacille pas, qui ne devient pas un peu plus brillante, plus sombre, plus brillante, plus sombre. Nous avons une ampoule dans notre salle de bain en ce moment et j'attends qu'elle meure. J'essaie juste de tirer le dernier petit peu d'argent de cette ampoule que vous payez, parce que vous achetez ces ampoules LED qui vont durer pour toujours, qui ne durent jamais pour toujours. Et nous en avons une qui s'éteint lentement. L'intensité est trop forte et on la voit scintiller. J'ai commencé à me demander si elle allait brûler. Vais-je perdre cette lumière? Ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Il n'est pas variable, il est cohérent. Il n'y a pas d'ombre de changement, pas de temps où les ombres se détachent de la lumière de différentes manières. Verset 18, il nous a engendrés par la parole de vérité. Le Père des Lumières est lié à la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Nous voyons donc que cet être qui est lumière, qui est appelé le Père de la Lumière, commence à travailler avec nous à travers sa vérité, la Bible, pour nous rendre plus semblables à lui, pour que nous puissions marcher dans cette lumière, pour que nous puissions avoir une capacité de voir à cause de la lumière. Apprenons à mieux connaître Dieu. Revenons au psaume 89. Cela aura beaucoup de sens. Le psaume 89. Parce qu'il est le Père des Lumières, il est fait de lumière. Cela ne devrait donc pas être une surprise, mais c'est tout de même intéressant pour continuer à expliquer comment Dieu voit la lumière et la vue ensemble. Psaume 89 et verset 15. Psaume 89, verset 15. Heureux le peuple qui connaît l'allégresse. Ils marcheront, Seigneur, à la lumière de ton visage. Alors l'hébreu ici, cela veut dire son visage. Donc, à la lumière de son visage. Nous comprenons qu'il y a un moment où vous et moi, nous sommes resplendissants. Lorsque nous serons éternels, nous brillerons. Nous pouvons dire que nous aurons l'éclat du visage de Dieu. Nous serons Dieu. Nous ne serons pas variables. Il n'y aura pas de moment où la lumière que nous avons vacille, s'estompe ou doute. Pas de variabilité. Le visage de Dieu produit de la lumière, et Christ n'était pas différent. Voyons cela dans le Nouveau Testament. Il s'agit peut-être d'une évidence, mais il est bon de la lire. Jean 8. Jean chapitre 8, verset 12. Juste un verset ici, Jésus leur parlait ainsi, « Je suis la lumière du monde. » Verset très courant, « Celui qui me connaît ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Lui. Il est la lumière du monde. Bien sûr, il l'est parce qu'il est descendu du Père des Lumières, avec son visage resplendissant. Ils produisent leur propre lumière. C'est pourquoi la vue de Dieu est très différente de celle que vous et moi avons. Nous ne pouvons pas produire notre propre lumière. Si cette pièce était comme une grotte et que je pouvais éteindre toutes les lumières, quelle que soit la qualité de notre vue, quelle que soit la qualité des lunettes que nous portons, nous serions aveugles. Pas de lumière, pas de vue. Dieu est différent. Il produit sa propre lumière. Il est capable de voir les choses parce qu'il n'est pas inhibé par le besoin d'avoir une source de lumière externe, d'être capable de... Si vous stimulez les photons et les récepteurs dans les yeux de Dieu, c'est lui qui produit cette lumière. Sa vue est donc très différente de la nôtre, et cela lui donne la capacité de voir des choses que vous et moi ne pourrions voir d'aucune manière, de voir au-delà de ce que les humains peuvent voir. Regardons dans les Proverbes, Proverbe 15. Quelques versets ici pour continuer à mettre cela en place. Proverbes, chapitre 15 et verset 3, Dieu peut voir plus loin. Proverbes, chapitre 15 et verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, c'est-à-dire que le regard de Dieu est partout, il voit le mal et le bien. Rappelez-vous, c'est ce que Satan avait promis à Adam et Ève. Si vous mangez de cet arbre, vous pourrez comprendre le bien et le mal. Vous pourrez voir ce que Dieu voit si vous mangez de cet arbre. Non, c'était une erreur, c'était leur erreur, de penser qu'ils pouvaient. Mais Dieu, en tant que Dieu, est capable de faire cela. Il est capable de voir partout. Et si vous croyez à la parole de Dieu, et je sais que vous y croyez tous, cela veut dire tous les endroits. Pas certains endroits, pas les endroits publics, pas les endroits où se trouvent d'autres membres, pas les endroits où se trouve le ministre, pas les endroits où se trouvent des gens en public, tous les endroits. Dieu voit tout. Il discerne tout ce que nous faisons. Revenons au Nouveau Testament, dans Hébreux 4. Habituellement, lorsque nous parlons de ce sujet, cela suscite probablement une petite réaction, « Ah, oui, je sais, lorsque je pêche en privé, Dieu peut le voir. » D'accord, c'est juste. Si vous pêchez en privé, Dieu peut le voir, mais Hébreux 4 est le verset 12. Le verset 12 d'Hébreux 4 dit, « Car la parole de Dieu est rapide, puissante et plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. La parole de Dieu, ils sont aussi liés que la vue de Dieu l'est à la lumière, mais en continuant, elle perce jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a pas de créature qui ne soit manifeste à ses yeux. Dieu discerne nos pensées, nos intentions. Jusqu'à quel point? Mais tout est nu devant Dieu. Dieu voit à travers les vêtements. Il voit à travers tout, peu importe ce que nous essayons de faire ou de cacher. Mais tout est nu et ouvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. On pourrait comparer la vision spirituelle aux neutrinos. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler des neutrinos? Ce sont ces particules subatomiques qui sont super, super, super minuscules. Elles vous traversent comme des fous en ce moment même. Si vous vous arrêtez, que vous fermez les yeux et que vous fredonnez un certain son, vous sentirez les neutrinos heurter vos cellules. Vous ne sentirez pas les neutrinos heurter vos cellules. Ils sont si minuscules qu'ils volent à travers les espaces entre les atomes de votre corps. Ce sont des particules subatomiques, mais elles se déplacent toutes. Rien ne les arrête. C'est pourquoi, pour détecter les neutrinos, ils disposent d'énormes détecteurs enfouis sous la roche, car les neutrinos traversent la roche. C'est la lumière et, pourrait-on dire, la vue de Dieu. Elle traverse tout. Les cellules, les atomes ne peuvent pas s'arrêter là où la vue de Dieu peut pénétrer, jusqu'au cœur et à l'esprit. Le public et le privé. Ils voient nos motivations, nos intentions et nos désirs. Mais il ne faut pas que ce soit. Bien sûr, si vous péchez, il ne faut pas que vous pensiez, oh là là. Il voit que même si je cache secrètement mon péché à la maison, et quand je viens au culte, je mets ma chemise et ma cravate, et je tiens ma Bible correctement, mais je vis deux vies. Oh, non, Dieu voit les deux vies. Oui. Si vous vous trouvez dans cette situation, oh, par tous les moyens, sentez la culpabilité de cette situation. Sentez la pression du regard de Dieu sur vous. Mais la grande majorité des gens qui vivent dans la voie de Dieu ou qui veulent la vivre ne vivent pas une double vie. Ce verset devrait donc être une source d'inspiration et non une condamnation. Ne laissez pas Dieu être capable de voir dans les affaires privées de votre vie, être un verset de condamnation. Non, que Dieu puisse voir les choses avec lesquelles vous luttez, les choses que vous avez testées ou éprouvées, ou votre, le travail et vos employés, et toutes les choses qui se passent autour de vous et qui rendent le christianisme difficile. Dieu peut voir que le christianisme est difficile. Quand sa vue peut atteindre votre vie et voir ce que vous traversez, c'est le même Dieu qui a créé la lumière, qui a créé la vue, qui a créé votre cerveau pour qu'il puisse prendre ses impulsions, ses signaux électriques, et les transformer en une image. Cela devrait vous inspirer. Il ne laissera pas les choses aller au-delà de ce que vous pouvez supporter. Nous le comprenons. Mais parfois, lorsque nous sommes loin des frères et sœurs, ou loin de notre ministre, ou loin des gens, nous nous disons, Dieu ne voit pas ce que je traverse. Il ne comprend pas ce que je vis. Il ne m'aide pas. Dieu ne me voit-il pas? Frères et sœurs, nous avons déjà vu que Dieu voit tout. Il n'y a rien de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez qu'il ne voit pas. S'il le permet, c'est qu'il y a une raison. Il vous teste. Il vous permet de vivre une épreuve parce que la récompense que nous obtiendrons sera finalement un être, Dieu, qui a la même vue que celui qui sait tout ce qui se passe dans votre vie. Il peut compter chaque cheveu de votre tête. Il connaît le nom de chaque moineau et de chaque étoile. C'est là que la vue de Dieu ne devrait pas être une force de condamnation parce que c'est, je suis passé par là moi-même. On se dit, oh, Dieu voit que je fais des erreurs. Je suis humain, donc je fais des erreurs. Mais Dieu voit aussi où vous avez besoin d'aide et où vous vous en sortez bien. Il voit là où vous surmontez, là où vous avez vaincu quelque chose dans votre vie, là où vous servez, là où vous êtes gentil. Même si vous le faites en secret, car rappelez-vous, nous prions en secret, nous servons en secret parce que Dieu le voit. C'est là que la vue de Dieu devrait nous inspirer. Passons à Luc 16. Un autre aspect de la question, avant de passer à un autre point. Luc chapitre 16, verset 13. Luc chapitre 16, verset 13. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, Dieu et l'argent. Les pharisiens, qui étaient cupides, entendirent ces choses et se moquèrent de lui. Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur argent. Il leur dit, « Vous êtes ceux qui se justifient devant les hommes, oh, j'ai besoin de mon argent. Avec mon argent, je peux servir et aider les gens, enseigner et faire toutes les choses que je peux faire en tant que pharisien. » Il leur dit, « Vous vous justifiez devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il peut voir vos cœurs. Car ce qui est très estimé des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu voit les cœurs, il voit quand nous sommes faux, si nous sommes hypocrites. Il le sait. Si nous faisons semblant pour les services, puis rentrons chez nous et faisons quelque chose de différent, si nous faisons semblant d'une certaine manière, Dieu le voit. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Si c'est un problème, corrigez-le parce qu'il voit nos faiblesses et voit quand nous luttons et essayons de les surmonter. Nous ne devrions pas nous contenter de dire, « Oh non, Dieu nous voit pécher. » Non, Dieu nous voit aussi réussir, et cela devrait vous inspirer. Il sait quand vous avez dépassé la ligne et que vous ne pouvez plus aller plus loin, car il ne rate rien. Inspirez-vous donc de la vision de Dieu, de la façon dont sa lumière imprègne tout. D'accord, nous avons parlé de l'absence de lumière, de l'absence de vue. Changeons un peu de vitesse. Il faut à nouveau de la lumière pour voir. La semaine dernière, mon fils, ma femme et moi sommes allés camper sur le campus. Une de ces petites cabanes, que nous appellerons camping jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas du camping, parce qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir rentrer à la maison et prendre une douche à la fin d'un séjour en camping. Mais nous continuerons à le faire. Mais l'une des choses que nous faisons quand nous allons camper, c'est que nous faisons quelque chose que nous avons encore fait hier soir. Nous appelons cela une promenade nocturne, et vers 8h30, 8h45, nous sortons. Il se met à sa petite lampe frontale, et j'ai une lampe de poche, et il commence à faire nuit. La transition se fait généralement en marchant. Il faut compter une demi-heure ou 40 minutes entre le crépuscule, la tombée de la nuit et l'obscurité totale. Et vous pouvez apprécier la différence, ce que vous pouvez voir et ne pas voir lorsque le soleil se couche, lorsqu'il commence à disparaître à l'horizon. Les ombres s'allongent, il devient plus difficile de voir. Et sans lumière, il faut trouver d'autres sources d'éclairage. Par exemple, J'ai cette énorme maglite que j'ai depuis 25 ans maintenant. Ce n'est pas une LED, elle n'a aucune fonction d'économie d'énergie. Elle consomme des piles des comme personne. Et puis il sonne à une toute petite lampe frontale qui fonctionne pendant des semaines avec une toute petite pile parce que ce sont de petites LED et qu'elle est aussi brillante que le soleil. Je me promène donc avec cette lumière jaune avec laquelle je peux à peine voir, et il a cette petite lampe frontale, et vos yeux commencent à s'ajuster. Vos yeux s'ajustent, ou, vous savez, vos pupilles s'ouvrent, vous absorbez plus de lumière. Je me promène et, au bout d'un moment, même ma lampe maglite, qui est maintenant assez faible, éclaire tout autour de moi. Je peux voir assez bien, au moins là où la lumière frappe. Puis il se retourne vers moi et me frappe avec le faisceau du soleil de sa petite lampe frontale, et je suis immédiatement aveuglé. Je ne vois rien. Il y a trop de lumière, mes yeux doivent s'adapter. Mais une fois que mes yeux s'ajustent et que je regarde, avec toute cette lumière, je peux voir. Partout où il éclaire ou où j'éclaire, je peux à nouveau voir. Et nous avons besoin d'une partie de cette lumière visible pour pouvoir regarder autour de nous. Cela ne fonctionne pas. Ça ne marche pas si je sors, vous savez, parce qu'on peut en avoir sur soi. Vous avez une lumière noire, qui émet essentiellement de la lumière ultraviolette, et certaines choses réagissent différemment à la lumière ultraviolette. Certaines choses réagissent différemment à la lumière ultraviolette, et cela affecte aussi un peu vos yeux. Certaines choses brillent sous l'effet de la lumière ultraviolette, brillent différemment et produisent des spectres qui donnent des jaunes vifs et d'autres choses encore. Mais si j'essaie d'aller camper, et que j'ai ce... Il y a des années, j'ai eu un chat qui avait du mal à se contrôler en dehors de la litière. Et l'urine de chat est luminescente sous la lumière ultraviolette, donc si vous essayez de résoudre ce problème avec un chat, vous pouvez l'éclairer à la lumière ultraviolette et vous verrez, oh non, retournez à votre litière. J'ai donc acheté une lumière LED super brillante, une lumière ultraviolette, une lumière noire, mais si je l'emmenais lors de nos promenades nocturnes et que je l'éclairais, elle serait totalement inutile parce que je ne peux pas voir la lumière ultraviolette sans une aide quelconque. Vous pouvez acheter des lunettes qui vous permettent de voir dans l'infrarouge ou l'ultraviolet. Vous voyez ces lunettes militaires et vous les mettez. Il n'y a pas de lumière autour, et elles peuvent alors voir les signatures thermiques, le spectre ultraviolet ou le spectre infrarouge, ce qui permet de voir efficacement la nuit. Mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nos yeux naturels sont incapables de voir en dehors du spectre de la lumière visible. Nous avons besoin de les modifier. Il en va de même sur le plan spirituel. Naturellement, nous ne pouvons pas voir la lumière spirituelle. Nous ne pouvons pas regarder en dehors du spectre de la lumière visible. Nous ne sommes pas capables de voir les choses que Dieu peut voir, d'une part, et d'autre part, même la lumière qu'il émet est invisible à nos yeux naturels et charnels. Ils ont besoin d'être modifiés. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour interagir avec notre esprit. Un peu comme les lentilles que l'on met sur les lunettes militaires pour voir les infrarouges, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu s'interface avec notre esprit pour que soudain nos yeux voient des choses que personne d'autre ne peut voir. Personne d'autre n'a la capacité d'absorber ces photons spirituels et d'être capable de traiter, de générer et de voir avec ce type de lumière. Nous devons être améliorés. Nous devons être convertis. Il faut que notre esprit s'ouvre à la capacité de traiter cela. Passons à Ésaïe 42. Nous examinerons aujourd'hui certains aspects de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre capacité à cet égard, mais la majeure partie de ce que nous allons couvrir aujourd'hui consiste simplement à ouvrir nos esprits à l'importance de la lumière et de la vue dans l'Esprit de Dieu et dans sa parole. Ésaïe 42 et verset 16. 42, 16. Je ferai passer les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. C'est là que nous en étions. Je les conduirai par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je ferai des ténèbres une lumière, et des choses tortueuses un droit. C'est ce que je leur ferai, et je ne les abandonnerai pas. Dieu a la capacité de prendre ceux qui sont dans les ténèbres et de les mettre dans la lumière. On pourrait parler de lumière physique, mais, bien sûr, plus encore, de lumière spirituelle. Dieu peut prendre ceux qui sont aveugles, car c'est vraiment cela être aveugle. Aucune lumière ne pénètre dans le cerveau. Selon le degré de cécité dont vous souffrez, vous pouvez avoir des problèmes avec vos lentilles ou votre cornée, ou vous, comment vos pupilles fonctionnent, mais souvent c'est lié au fonctionnement de l'arrière de votre œil ou à la façon dont l'information est transmise au cerveau. Mais d'un œil complètement non fonctionnel à un œil pleinement fonctionnel, sans que la lumière ne le frappe, vous êtes aveugle. Vous et moi sommes aveugles. Avant que l'Esprit de Dieu ne change notre capacité à absorber la lumière spirituelle, à avoir la connaissance spirituelle, à avoir une vue spirituelle, vous et moi sommes aveugles. Il peut donc conduire les aveugles, ce que nous étions, sur un chemin que nous ne connaissions pas. Nous avons complètement changé de chemin lorsque Dieu nous a appelés, ou du moins nous aurions dû le faire. Il peut rendre les choses légères. Verset 17, ils reviendront sur leurs pas, et ils auront honte de se confier à des images taillées, de dire à l'image de fonte, « Vous êtes des dieux ». On le voit dans l'Ancien Testament. Écoutez, sourds, et regardez, aveugles, afin de voir. Je peux ouvrir vos yeux, je peux ouvrir vos oreilles, dit Dieu. Qui est aveugle, sinon mes serviteurs, ou sourd comme mon messager que j'ai envoyé? Si nous acceptons de commencer ainsi, Dieu peut changer les choses. Qui est aveugle comme celui qui est parfait, et aveugle comme les serviteurs du Seigneur? Le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu comprennent que c'est ainsi que nous avons commencé. Nous avons commencé sourds et aveugles, en voyant beaucoup de choses. S'adressant ici à Israël, vous n'observez pas, en ouvrant vos oreilles, vous n'entendez pas. Le Seigneur est satisfait à cause de sa justice. Il magnifiera la loi et la rendra honorable. Dieu a la capacité de changer le cours de notre vie. Et je pense que tous ceux d'entre nous qui se tiennent ici ou qui sont assis ici autour du monde savent qu'un chemin était très différent de celui qu'ils suivaient. Peu importe que vous ayez grandi dans l'Église de Dieu ou que vous ayez été appelé. Si vous avez grandi dans l'Église de Dieu, vous avez été mis sur la voie très tôt. Votre seule option est de décider ou non de dévier de la route. À bien des égards, vous avez grandi en apprenant à conduire, en apprenant à voir, et par vos parents, vous avez été sanctifiés. Leur obéissance, leur site vous permet, par extension, de voir. C'est un peu comme si vos parents avaient des lunettes de réalité virtuelle à la maison. Et vous ne pouvez pas voir ce qu'ils voient, mais parce qu'ils obéissent à Dieu, ils vous donnent ces lunettes VR, et vous, et maintenant vous pouvez voir ce qu'ils voient. Dieu étend cette vision d'eux à travers eux jusqu'à vous, les jeunes. Vous avez donc la capacité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu ou que vous êtes un membre en perspective et que vous n'êtes pas encore converti, non, Dieu est en train d'ouvrir votre esprit, de commencer la conversion de votre cœur. Alors, vous avez la capacité de voir. 2 Corinthiens 4. Retour au Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 5. 2 Corinthiens, 4, 5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ, Jésus, le Seigneur, et nous-mêmes, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu a ordonné que la lumière brille au milieu des ténèbres. Pensez à la création. Il n'y avait rien dans les ténèbres. Il a ordonné, séparez cela, et soudain, la lumière est apparue. A brillé dans nos cœurs, conversion. Donc, d'abord la planète, puis nos cœurs, pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, c'est toujours lié à la connaissance. Il est toujours lié à l'obéissance. Verset 7, nous avons ce trésor dans des vases d'argile, et l'éclat de la puissance vient de Dieu, mais non de nous. Chaque fois que nous commençons à penser que nous pouvons voir, c'est à peu près le moment où nous redevenons aveugles. Nous verrons cela plus tard. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre que nous pourrions parcourir, et nous allons simplement lire, et nous y reviendrons plusieurs fois. Parce que Dieu a la capacité de commander, de changer les choses, mais avec les gens, c'est différent. Il ne veut pas que nous soyons simplement des robots. Il pourrait programmer les êtres humains pour qu'ils aient une sorte de fonction, si vous voulez, qui serait comme les animaux où il y a, où ils ont des capacités naturelles qui sont construites en eux. L'instinct, si vous voulez, mais ce n'est pas ainsi qu'il travaille avec les gens. Non, il ouvre notre esprit. Il ouvre notre cœur de pierre et nous dit, Je vais vous laisser voir lentement au fil du temps. Rappelez-vous quand vous avez été appelé pour la première fois et que vous avez été conseillé pour le baptême, et l'une des choses dont votre pasteur vous a parlé, il a dit, « Eh bien, Dieu vous montre un petit peu de vous-même à la fois. Il vous laisse voir des parties de qui vous êtes parce que s'il vous montrait tout en même temps, vous sauteriez d'un immeuble ou d'un pont, ou peu importe comment il l'a formulé. Il vous montre de petits bouts de vous-même. Il vous laisse voir des petits bouts de vous-même au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu continue à travailler à travers vous. Notre vision n'est pas parfaite lorsque nous nous convertissons pour la première fois. Non, c'est un processus qui dure toute la vie et qui consiste à essayer de mieux voir. C'est exactement le contraire de ce qui arrive aux gens. Je porte des lunettes maintenant parce que je n'ai plus 25 ans. Avec l'âge, j'en ai besoin pour pouvoir lire mes notes devant moi. Avec l'âge, notre vision diminue. En tant que chrétien, c'est exactement le contraire. Au fur et à mesure que nous vieillissons à la manière de Dieu, que nous grandissons dans son caractère et que nous lui ressemblons davantage, notre vision augmente. Notre perception s'accroît. Les détails des choses spirituelles deviennent plus clairs, mais il faut le vivre. Des années, du temps, pour y parvenir. Examinons quelques versets des psaumes. Livre des psaumes. Regardez le verset 19, 1 à 5. Psaume 19, 1 à 5. Des passages familiers, mais utiles pour parler de la nécessité de la lumière pour la vue. Psaume 19, 1 à 5. Ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu est donc une lumière, une lampe, et une lumière sur mon sentier. C'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Dieu produit la lumière. C'est la parole de Dieu. Ses paroles, le logo. Ce livre que j'ai ici, que vous avez sur vos genoux, produit de la lumière, c'est une lampe qui nous permet de voir où nous allons. Si vous avez une très mauvaise vision, vous enlevez vos lunettes. J'ai entendu des gens dire, « Oh, quand j'enlève mes lunettes, je suis aveugle. Je ne vois plus rien. » Frères et sœurs, quand nous cessons de nous appuyer sur la parole de Dieu, nous sommes aveugles. Nous ne voyons plus rien. C'est le même problème. Elle nous permet de pouvoir marcher dans un chemin qui a du sens. Retournez au psaume 43. Nous en verrons un deuxième ici, rapidement, dans ce psaume. Psaume 43 et verset 3. 43, verset 3, « Fais jaillir ta lumière et ta vérité. » Bien sûr, ils sont liés. La parole de Dieu qui est la vérité de Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité. Les deux ensemble, parce que vous avez besoin de la lampe, qui contient les mots, qui contient la vérité, qui ne se trouve que dans la véritable Église, parce que beaucoup de gens prennent ce livre et disent, « Oh, j'ai compris. Je sais ce que cela signifie. Les gens vont au ciel. » Mais il y a un verset qui dit que personne n'est allé au. J'ai lu ce livre. J'ai compris. Nous devrions garder le dimanche. Mais le livre parle du sabbat, donc les gens peuvent prendre le livre et penser qu'ils savent ce qu'il signifie et penser qu'ils ont une lampe, mais ils sont tout aussi aveugles qu'ils l'étaient avant, comme l'athée. Vous avez besoin de la lampe, de la lumière, de la vérité. Et la seule façon d'avoir la vérité est de vous asseoir dans l'Église de Dieu, la véritable Église de Dieu, pas une scission, pas une ramification, la véritable Église de Dieu. C'est le seul endroit où vous trouverez la vérité, votre vérité, la vérité de Dieu et tous ses aspects. Je me souviens avoir entendu l'histoire d'une personne qui nous a quittés il y a des années et qui est allée dans une scission, et l'une des scissions les plus conservatrices, décrire le chaos dans lequel se déroulait leur service du sabbat, où une autre parlait du fait qu'elle était poussée à faire des sermons parce que personne ne voulait prendre la parole. Cette personne n'était pas tout à fait qualifiée et elle le savait parce qu'elle était ici depuis assez longtemps pour savoir quelle est la norme de Dieu. Nous avons récemment organisé une journée portes ouvertes et quelqu'un est venu, et l'un de ses commentaires, qui avait des antécédents mondiaux à Cleveland d'où il venait, était le suivant: « Eh bien, oui, je me promène et je vois les mêmes, ils sont rentrés chez eux, mais ils ont pu mettre ce point ensemble. Je vois les normes, l'application et la qualité dont je me souviens de l'Église mondiale de Dieu sous la direction de M. Armstrong. C'est que nous sommes différents, et nous devons être capables de passer à travers les nœuds, les tournants et les torsions lorsque Dieu révèle des choses à son Église. Préféreriez-vous être à une époque où la vérité était stable? Rien n'avait changé, mais vous n'en aviez qu'une infime partie. C'est plus facile, n'est-ce pas? Malheureusement, cela signifie que Dieu doit nous mettre à l'épreuve d'une autre manière si nous vivons dans une période moins turbulente, ou si vous préférez vivre à une époque où Dieu montre des choses étonnantes à son Église, mais où le processus peut être un peu chaotique. Cela ne change rien au fait qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Cela ne change rien au fait que sa vérité, sa parole et sa lumière brillent ici. Une fois que vous quittez la vigne, une fois que vous êtes en dehors du corps du Christ, la lumière s'éteint. Les gens peuvent avoir l'Esprit de Dieu en eux pour générer un peu de lumière. Oui, c'est possible. Ceux qui ont encore l'Esprit de Dieu peuvent générer un peu de lumière. Les gens peuvent être gentils. Les gens dans le monde peuvent être gentils. La ville de Wadsworth a un logo qu'elle met en avant depuis un certain temps. Il s'agit du signe dièse. Soyez gentils. Cela en dit long sur le monde dans lequel nous vivons, qu'une communauté relativement conservatrice met en avant une mesure incitative, ce qui est très bien. Les Canadiens apprennent la gentillesse dès leur plus jeune âge. Il est nécessaire d'avoir une initiative sur la gentillesse, car sans elle, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont gentils et qui veulent l'être. Il y a des personnes converties qui sont assises sur des échardes et qui peuvent montrer un peu de lumière, mais elles sont déconnectées de la vigne. Cette lumière s'estompe. Vous et moi avons un lien avec elle parce que nous sommes assis dans l'Église de Dieu. La lumière est nécessaire à la vue. Encore une fois, rappelez-vous, pas de lumière, pas de vue, pas de lumière spirituelle, pas de vue spirituelle non plus. Un autre aspect de la lumière est qu'elle a des propriétés différentes lorsqu'elle interagit avec des substances différentes. La lumière au sens physique, parce que techniquement la lumière ne serait pas un sens physique. Nous l'appellerons la lumière au sens matériel, au sens de particules, qui peut être soit absorbée, soit réfléchie, soit passée à travers quelque chose et ses variations. Une partie de la lumière rebondit et se transforme en période, c'est pourquoi vous et moi pouvons voir les couleurs. Lorsque la lumière frappe une chaise dans une pièce, la veste d'un costume ou la robe d'une personne, elle rebondit sur la couleur qu'elle n'a pas absorbée. C'est tout le spectre de la lumière blanche qui frappe. Disons que ce microphone est noir, c'est donc un très mauvais exemple. Prenons ce marron, car le noir absorbe tout. Prenons ce sous-vert brun ici. Si la lumière l'atteint, elle absorbe tout sauf le marron, et le marron rebondit et cette longueur d'onde atteint votre œil, ce qui génère le signal qui fait dire à votre cerveau, « Oh, cela a l'air marron ». Il est amusant de constater à quel point notre vision est inversée. Vous percevez la couleur de la seule couleur que l'objet que vous pensez être, disons, marron, n'a pas absorbé. Nous voyons donc du marron sur des objets qui ne sont pas marrons parce qu'ils n'ont pas absorbé la lumière marron. C'est un retournement de cerveau, mais c'est ainsi que fonctionne la lumière, Lorsqu'elle arrive, elle interagit avec cette substance d'une manière différente de celle qu'elle aurait avec ce verre. Elle passe à travers ce verre ou une fenêtre. Il travaille très, très dur pour rendre les fenêtres aussi claires que possible. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces grandes, énormes, super fenêtres transparentes, dont on ne voit même pas qu'elles sont là. Vous avez peut-être été l'une de ces personnes pressées un jour et vous avez heurté de plein fouet cette porte coulissante en verre parce que vous ne la voyiez pas. La lumière passait à travers, vous ne voyiez pas la porte, mais vous avez un miroir, et c'est l'opposé polaire de l'absorption comme le noir, la substance la plus sombre qu'ils ont, c'est le noir d'obsidienne, je crois qu'ils l'appellent, c'est une substance qui absorbe presque toute la lumière. Lorsque la lumière l'atteint, elle l'absorbe et elle paraît très sombre, très noire. Plus une chose est noire, plus elle absorbe la lumière. Plus un objet est blanc, plus il réfléchit la lumière ou, comme dans un miroir, plus il la renvoie. Toute la lumière qu'il atteint est renvoyée vers l'extérieur, et toutes les variations intermédiaires. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous recevons de Dieu, souvenez-vous qu'il est lumière, qu'il émane de la lumière, nous la recevons par son esprit. Nous avons le choix de la refléter, de l'absorber ou de la laisser passer. Spirituellement, c'est cette dernière option qui pose un problème. Si nous laissons simplement la lumière de Dieu nous traverser, nous ne l'exploitons pas, nous ne l'utilisons pas. Tout comme une fenêtre nous permet de voir à l'extérieur, elle ne fait rien, elle laisse simplement passer quelque chose. En tant que chrétien, si nous laissons la lumière de Dieu nous traverser, nous ne l'utilisons pas, nous ne l'exploitons pas, nous la perdons. On peut penser que refléter est davantage la façon dont nous nous comportons, et ce que nous faisons, et regarder plus en détail et absorber vraiment un changement personnel. Les choses changent lorsqu'elles absorbent la lumière au fil du temps. Nous verrons cela plus en détail dans un instant. Reprenez Jacques 1. Un peu plus loin dans Jacques 1, je reviens à mon exemple de lampe de poche. Encore une fois, pendant que vous tournez là, Jacques 1. Il y a un petit cadran sur le dessus qui change la position de l'ampoule à l'intérieur. Et il y a un tas de miroirs à l'intérieur. Hier soir, nous avons trouvé des champignons dans l'obscurité. Et je pouvais focaliser cette ampoule ou cette lampe de poche pour obtenir un cercle lumineux sur un champignon, afin que ma femme puisse le photographier, mais si je l'ouvre, la bande s'élargit vraiment et diffuse davantage la lumière. C'est parce qu'il y a un miroir à l'intérieur qui va vers l'avant et vers l'arrière pour capter la lumière, la concentrer et nous permettre de voir quelque chose. Si j'étale cette lumière très largement et qu'elle est diffuse, je peux peut-être marcher sans trébucher, mais je ne peux pas voir les détails. Je ne peux pas voir la complexité des choses. Je ne peux pas voir les points, les taches sur les champignons ou la texture des arbres, mais lorsque je concentre la lumière, je commence à voir les détails. Je commence à pouvoir regarder quelque chose d'une manière que je ne pourrais normalement pas faire si je ne la concentrais pas, si je ne la reflétais pas, ou si je l'exploitais d'une meilleure manière. Jacques, chapitre 1. Vous y êtes probablement. Je devrais tourner le chapitre 1 de Jacques, et le verset 22, Jacques 1, 22. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir. Un miroir nous permet de voir les choses, il nous permet de concentrer la lumière. Car il se regarde, et il s'en va tout droit, et il s'en va, et il oublie tout de suite quel homme il était. Il n'a pas remarqué ce que la lumière qui se reflétait sur lui essayait de lui montrer. C'est ce que fait un miroir, qui vous permet de voir ce que les gens voient sur vous, qui vous permet de voir qui vous êtes. Si vos cheveux sont en désordre, Si vous avez oublié de vous raser, si vous avez quelque chose entre les dents, ou quoi que ce soit d'autre, un miroir vous le montrera parce que la lumière qui rebondit sur vous frappe le miroir et revient. Lorsque nous utilisons la parole de Dieu comme un miroir, elle permet à ce que nous sommes de rebondir sur le miroir et de nous revenir. Elle concentre la lumière de Dieu. Elle concentre notre vue spirituelle, dans ce cas, pour nous voir nous-mêmes. Puis, comme le dit Jacques, avant de faire quelque chose, nous devons agir. Nous devons le vivre. Si nous allons voir que nous avons une tache sur le front et que nous regardons, oh là là, c'est une terrible tache sur notre front, et que nous nous éloignons, nous avons toujours une tache sur notre front, mais le but du miroir, le but de la parole de Dieu est de voir la tache et de déterminer ce que nous devons faire pour la corriger. Passons à Matthieu 4, ou Matthieu 5, excusez-moi. On s'attendait probablement à ce qu'il vienne ici à un moment donné dans un sermon sur la lumière. Matthieu, chapitre 5 et verset 12. Nous commencerons au verset 12. Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, puisque vous avez persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu son conservateur, avec quoi sera-t-il scellé? Est-il désormais bon à rien, sinon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que Christ a dit qu'il était. Nous l'avons lu. Il a dit qu'il était la lumière du monde, mais ici, nous sommes également appelés la lumière du monde. Sans sa présence, le monde n'a pas Christ qui émane de la lumière. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une bougie pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans toute la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, si nous vivons le christianisme, si nous ne sommes pas seulement avec le peuple de Dieu, mais bien sûr avec le peuple de Dieu, mais avec tous ceux qui nous entourent, si nous nous soucions, si nous voyons des choses comme l'initiative « Soyez gentils à Wadsworth » et que cela nous fait du bien, comme si de bonnes personnes voulaient être gentilles, c'est formidable. C'est le reflet de Dieu sur les gens. Nous devrions être le miroir de Dieu. Nous prenons la Bible et elle nous sert de miroir pour nous aider à nous changer, mais vous et moi sommes le miroir de ce que Dieu est ou de ce que nous devrions être. Lorsque les gens nous voient, vous et moi, ils devraient penser, ils sont différents. Ils peuvent ne pas aimer ce que nous croyons, ne pas comprendre les subtilités de la doctrine ou ne pas être d'accord avec la raison pour laquelle nous célébrons le sabbat, et non le dimanche, mais ils devraient pouvoir dire, « Oh là là, ces gens sont différents. Ils sont gentils. Ils sont aimants. Ils se soucient des gens. Ils sont polis. Ils s'habillent bien. Elles sont respectueuses. Ils essaient d'aider. Ils n'essaient pas de provoquer des querelles, des débats ou des disputes. Ils essaient de vivre en paix avec tous les hommes. Si c'est ainsi que les gens nous voient, et vous aurez des tests, des épreuves et des désaccords parce que nous essayons de vivre en paix avec tous les hommes, mais cela ne se produira pas dans tous les cas. Cela dépend en partie de la façon dont nous sommes, mais parce que nous pouvons être testés et éprouvés et que Satan est toujours le Dieu de ce monde, mais si nous faisons notre travail, nous reflétons cette lumière. Nous sommes le miroir de la lumière de Dieu. Nous sommes un miroir du Père des Lumières, et ce sera aussi proche avant le retour du Christ que les gens arriveront à comprendre Dieu. La plupart ne le comprendront pas. Rappelez-vous, vous avez entendu cela pendant des années. Si vous êtes allé sur le chemin de Dieu, vous, Moi sommes probablement la seule Bible que les gens voient. Je dis voir, vous pourriez dire lire, mais dans ce cas, voir. Nous venons d'en faire l'expérience lors de la journée portes ouvertes. C'était incroyable. 90 personnes sont venues. Nous étions tellement excités avant la journée, et personne n'a fait exploser quoi que ce soit. Personne n'a mis le feu aux arbres et les gens se sont promenés sur le campus et ont pu voir ce qu'était l'église de Dieu. J'ai vu beaucoup de commentaires sur Facebook. Certains sont agréables, d'autres non, mais si vous ignorez les absurdités, vous obtenez les pépites des gens qui disent « Oh, c'était juste des gens très gentils ». Il y avait ce couple adorable qui venait d'Afrique du Sud et cet autre couple qui venait du Nigeria. Nous avons pu montrer une partie de Wadsworth. La lumière de Dieu. Il en va de même pour la conférence ministérielle. Vous n'y pensez peut-être pas de cette manière. Les hommes viennent ici pour se former, travailler et apprendre aux femmes. Nous avions beaucoup de personnes qui servaient la nourriture et qui travaillaient pour une société de restauration extérieure. Ils adoraient travailler avec nous. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous payons leurs factures. Bien sûr, elles adorent leur salaire, mais elles le reçoivent de n'importe qui. Ils aiment travailler avec nous parce que nous reflétons la lumière de Dieu. On peut le dire de différentes manières. Parce que nous reflétons le caractère de Dieu, parce que nous vivons selon son mode de vie, parce que nous reflétons Christ dans la Bible, mais parce que nous reflétons sa lumière, nous pouvons être cette ville située sur une colline. Nous sommes la lumière de ce monde. Voyons-en un autre ici. Un autre aspect de la lumière. Encore une fois, la vue et la lumière sont toujours liées. L'un ne va pas sans l'autre. La lumière est transformatrice. Il s'agit plutôt de l'absorption de la lumière. Sur le plan physique, pensez aux plantes. C'est facile. La lumière y pénètre de la même manière qu'elle frappe notre œil. Elle crée une réponse chimique dans les plantes, elle génère de l'énergie. Cette énergie permet à la plante de pousser. Sans lumière, il n'y a pas de plante. Sans lumière, vous et moi ne mourrons pas, du moins dans l'immédiat. Nous pouvons vivre dans l'obscurité. Nous ne voyons rien, nous sommes aveugles, mais nous ne mourrons pas. Les plantes, par contre, meurent. Sans lumière, elles ne peuvent pas faire de photosynthèse. Elles ne peuvent pas produire d'énergie et meurent tout simplement. Et finalement, sans les plantes, les animaux meurent, puis nous mourrons. Tout cela fonctionne ensemble, mais ce n'est pas une chose immédiate pour nous. Il y a d'autres choses que nous voyons dans la société. Les panneaux solaires, c'est la même chose. Ils prennent la lumière et, grâce à un processus chimique, produisent de l'électricité que l'on peut stocker et utiliser. Il s'agit de transformer la lumière en quelque chose d'autre. La lumière a une capacité étonnante. Si vous mettez quelque chose à l'extérieur, prenons la lumière du soleil, vous mettez quelque chose à l'extérieur à la lumière du soleil, ou si vous avez une moquette, et c'est, nous avons en fait remplacé la moquette par du carrelage au troisième étage dans les tours de ce bâtiment. Dans l'une ou l'autre tour, nous avions de la moquette qui s'étendait dans les tours. Nous sommes dans le bâtiment depuis environ 6 ans. Ces tours, contrairement à d'autres fenêtres, ont l'air clair, mais je pense qu'elles sont transparentes à 80 ou 75%. Elles filtrent une grande partie de la lumière UV qui traverse les fenêtres, mais dans les tours, elles sont transparentes à plus de 90%. Presque toutes entrent par ces tours. Même si elle filtre une partie de la lumière UV, au fil du temps, la moquette qui se trouvait là-haut a commencé à passer du rouge au rouge clair, puis au mauve, avant de blanchir avec le temps, car la lumière du soleil peut désinfecter, blanchir, Décolorer les choses, car la lumière peut transformer les choses, pas nécessairement toujours dans le mauvais sens. Plus nous absorbons la lumière de Dieu, plus nous l'absorbons par la prière, l'étude, le jeûne, les outils de croissance, plus nous l'absorbons, plus elle peut être transformatrice pour vous et moi. Rappelez-vous, en tant que chrétien, votre vision s'améliore avec le temps parce que, et c'est la raison principale, vous utilisez mieux la lumière de Dieu pour voir. Plus nous avons de lumière, plus nous l'absorbons, plus nous l'utilisons et plus nous sommes capables de la refléter, plus notre vision spirituelle s'améliore. Plus notre sagesse, notre compréhension, notre capacité à souffrir et endurer les épreuves sont grandes, plus nous sommes capables de voir le but ultime des autres. Lorsque quelqu'un vous fait du tort ou fait quelque chose de mal, vous pouvez voir qu'il sera un jour un être divin. Parce que vous savez quoi? Ma vision n'est pas la leur. Cette personne qui vous coupe la route dans la circulation et qui vous fait un geste, ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez la regarder et dire, elle a le potentiel d'être Dieu. Elle ne voit pas ce potentiel en vous parce que vos yeux ne sont pas les leurs. Votre vision spirituelle n'est pas la vision charnelle qu'il voit. Vous pouvez regarder avec vos yeux physiques et vous mettre en colère contre quelqu'un qui vous a coupé la route. Ou vous pouvez les regarder spirituellement avec vos yeux spirituels, avec la lumière de Dieu sur eux, rebondissant sur vous et dire, « Je vois un être de Dieu là ». Cela ne veut pas dire que vous laissez les gens vous frapper, mais cela signifie que vous tournez le dos. Vous êtes prêt à prendre les bleus et la coupe parce que, vous savez quoi, je suis un chrétien, et je ne suis pas accroché à un pieu pour être percé et battu. Je m'en sors plutôt bien en tant que chrétien. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 3, 4 verset 3. Le verset 3 dit, « Si notre évangile est caché, il est caché à ceux qui se perdent. On peut dire qu'ils sont aveugles. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux, ne les éclaire pas. Car nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, mais pour Christ Jésus, le Seigneur, nous-mêmes vos serviteurs à cause de Jésus, pour Dieu qui a ordonné que la lumière brille hors des ténèbres. » Rappelez-vous que nous avons déjà lu la quatrième partie de l'Épître aux Corinthiens. J'ai dit qu'il y avait plus que cela, celui qui a ordonné à la lumière de briller hors des ténèbres a brillé dans nos cœurs parce que nous étions dans les ténèbres. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais commencer à penser, vous savez quoi? Je sais tout. Je connais le christianisme. Je connais le vrai Dieu. Vous pouvez vous réjouir d'avoir ce mode de vie, mais vous et moi, nous sommes aveugles. Avant que Dieu ne nous appelle, nous n'avons pas le droit de monter sur nos grands chevaux lorsque nous regardons ceux qui sont en dehors de la voie de Dieu. L'occasion vient de nous être donnée. Comme il continue à le dire, il a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. C'est ce que nous avons compris. Romains 12 nous a transformés. Romains, chapitre 12, verset 1. Le premier verset dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. » Verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ou vous pouvez dire par le renouvellement de votre vue. Afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Une fois que notre vue a été changée, vous et moi avons eu accès à une meilleure compréhension de la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous nous intéressons aujourd'hui à la pensée de Dieu. En créant la lumière, Il nous a donné cette particule physique, les photons, les ondes, toutes ces choses, tout l'aspect scientifique pour que nous puissions dessiner et voir ce qu'il est. Il ne s'appellerait pas lui-même la lumière. Il existait en tant que lumière avant de créer la lumière que nous voyons. Lorsque nous regardons ce qu'il a créé, dans ce cas, la lumière et la vue, nous devrions être capables d'avoir une fenêtre sur Dieu et ensuite une fenêtre sur ce à quoi vous et moi devrions ressembler. Ce que nous apprenons de sa parole nous change. Plus nous en absorbons, plus nous nous transformons. Elle nous apprend à lui ressembler davantage. Avec le temps, notre vision s'améliore sur le plan spirituel, et n'empire pas comme c'est le cas sur le plan physique. Actes des Apôtres, chapitre 9. Chapitre 9 des Actes des Apôtres, l'histoire de Saul devenu Paul. Nous allons l'approfondir un peu plus et commencer au verset 3. Verset 3 du chapitre 9 des Actes des Apôtres. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est difficile de t'opposer aux aiguillons. » Il tremblait et, étonné, disait, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Cette lumière a changé Saul. Elle l'a transformé en ce qu'il allait devenir en tant que Paul. Que veux-tu que je fasse ? Le Seigneur dit, lève-toi, va à la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Lorsque Paul a été exposé à cette lumière, parce que, rappelez-vous, beaucoup de gens ont été aveuglés par cette lumière. Beaucoup de gens n'étaient pas capables de voir à cause de ce que Satan avait fait, mais dans ce cas, Paul, Saul, avant qu'il ne soit Paul, a été frappé par la lumière qui l'a fait marcher sur un chemin très différent, comme le montre la Bible sur ce qu'il a fait après cela. Il y a un danger. Notre vision n'est pas permanente. Elle n'est pas permanente. Il suffit d'un accident, d'un déversement de produits chimiques ou autres, pour que l'on devienne aveugle. On peut passer d'une vision parfaite de 23 ou 25 ans, voir tous les détails, à une cécité instantanée à la suite d'un accident. Frères et sœurs, nous pouvons perdre notre vue spirituelle et redevenir aveugles. Si nous ne marchons pas, ne vivons pas, n'agissons pas, ne mettons pas notre cœur dans l'œuvre de Dieu, ne mettons pas notre cœur à vivre de cette manière et les uns envers les autres, nous pouvons commencer à perdre notre vision. Nous pouvons commencer à régresser. Revenons au chapitre 4 de l'Épître aux Corinthiens. Encore une fois, ce chapitre contient beaucoup de choses. 2 Corinthiens 4. Le début du verset 1 cette fois-ci, tout au début du chapitre. 2 Corinthiens, 4e et 1er verset. C'est pourquoi, ayant ce ministère comme nous avons reçu la miséricorde, nous ne faiblissons pas, mais nous renonçons aux choses cachées de la malhonnêteté, ne marchant pas par ruse et ne maniant pas la parole de Dieu de manière trompeuse, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandons à la conscience de chacun sous le regard de Dieu. Si notre évangile est caché. Rappelez-vous que nous avons déjà lu cela. Il est caché à ceux qui se perdent. Pourquoi a-t-il été caché? Pourquoi sont-ils perdus? Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Nous l'avons lu la première fois. Satan veut aveugler votre esprit. Il veut que votre vision spirituelle s'obscurcisse à nouveau. Quand vous êtes aveugle, vous pensez que vous pouvez voir. Contrairement à la cécité physique, si je suis soudainement atteint de cécité physique, je sais que je suis aveugle. Tout est devenu sombre. Je pourrais me justifier en me disant, vous savez quoi? J'ai encore une très bonne vision, mais toutes les lumières ont été éteintes. On peut se faire des illusions et dire, vous savez quoi? Non, je vois encore. Quelqu'un pourrait-il allumer la lumière, s'il vous plaît? Ma vision est spectaculaire. Je peux voir à des kilomètres, j'ai probablement une meilleure vision qu'à n'importe quel moment de ma vie, mais quelqu'un a éteint toutes les lumières, alors si quelqu'un d'autre pouvait juste allumer les lumières, je pourrais voir à nouveau. Frères et sœurs, si nous devenons aveugles spirituellement, nous ne pensons pas que c'est notre problème. Nous continuerons à penser que nous pouvons voir. Nous serons sûrs d'avoir une merveilleuse vision spirituelle. Nous serons persuadés que c'est quelqu'un d'autre qui cause le problème de notre vue, et non pas nous. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un quitte l'Église de Dieu. Ils pensent que leur vision est plus claire que jamais, mais en réalité, ils sont devenus aveugles. Si nous ne sommes pas reliés à la vigne, notre vision s'estompera. La netteté, les détails, les normes, les choses que vous et moi pensons ne jamais toucher en 1 million d'années disparaîtront, et nous ne nous en rendrons même pas compte parce que nous serons tellement certains que notre vision est parfaite. C'est ce qui se passera. Nous laisserons Satan remettre notre vision à ce qu'elle était. Enfin, la lumière peut être utilisée comme un guide et une forme de protection, surtout sur le plan spirituel. Revenons au psaume. Psaume 18, alors que nous commençons à conclure ici. Psaume, chapitre 18. 18 psaumes, verset 28. Quelques versets seulement. Le verset 28 se lit comme suit, « Car tu allumes ma chandelle, le Seigneur mon Dieu éclaire ma vie. Le Seigneur mon Dieu éclairera mes ténèbres. » Peu importe à quel point ce monde peut être dur ou difficile ou à quel point il devient sombre, Dieu nous guide. Il nous protège. Il éclaire notre chemin, tout comme nous marchions la nuit dernière, et si nous éteignons toutes les lampes de poche, surtout si nous nous enfonçons dans les bois, tout devient très sombre. Vous n'êtes pas sûr de vous. Où est-ce que je marche? Non, Dieu dit, non, je suis une bougie. Je vais éclairer ton chemin. Je peux éclairer. Éclairer signifie faire briller de lumière tes ténèbres. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6 au verset 23. Proverbe 6, 23, car le commandement, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, est une lampe, et la loi est une lumière, et l'épreuve de l'instruction sont son mode de vie. Vous lisez quelque chose de semblable, c'est une lumière. Retournez à Proverbe 3. Proverbe ici en conclusion. Proverbe 3 et verset 4. Le verset 4 dit, si tu trouves grâce à une bonne intelligence aux yeux de l'homme et de Dieu, ou de Dieu et de l'homme, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos sentiers. Parce qu'en fin de compte, c'est là que nous pouvons nous tourner. Allez à la deuxième partie des Corinthiens. Je vous laisse commencer. Nous ne lirons qu'un seul verset. C'est l'ironie du sort. J'ai lu ce verset pendant des années et je ne l'ai jamais relié comme je l'ai fait après avoir préparé ce message. 2 Corinthiens, chapitre 5. Parce que nous savons en fin de compte, comme vous le voyez, que nous devons nous en remettre à Dieu. C'est lui qui dirige nos chemins. C'est lui qui nous aide à aller là où nous devons aller. C'est lui qui nous donne la vue spirituelle, car lorsque nous commençons à nous appuyer sur notre propre compréhension, nous commençons à échouer en tant que chrétiens. Nous commençons à devenir spirituellement aveugles et nous commençons à faire le contraire. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 7. Il y a cette petite phrase, car nous marchons par la foi, et non par la vue physique. Cela ne veut pas dire que nous ne marchons pas par la vue spirituelle. Nous venons de passer les 75 dernières minutes à apprendre cela. Nous marchons par la foi, ce qui exige une vision spirituelle, la capacité de voir les choses qui ne peuvent pas être vues avec des yeux physiques. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. C'est ainsi que nous nous engageons sur le chemin qui nous mène là où nous devons aller. Allez au premier chapitre de Jean. 1 Jean, chapitre 1. Beaucoup de ces versets. J'ai recoupé certains d'entre eux à plusieurs reprises, mais vous les voyez sous différentes perspectives. Le 1 Jean, chapitre 1, verset 4, dit « Nous vous envoyons ces choses, afin que votre joie soit complète. » Il s'agit donc d'un message que nous avons entendu de lui en vous déclarant que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité, car lorsque nous faisons la vérité, nous marchons dans la lumière. Nous voyons avec la vision de Dieu, nous voyons avec des yeux spirituels, mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si vous et moi, frères, restons dans la lumière, nous avons un avantage. Si nous restons sous la protection de Dieu dans cette lumière, nous avons un avantage. Nous pouvons être purifiés de nos péchés. Nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons tomber et nous relever. C'est lorsque nous nous éloignons de l'Église de Dieu ou de Dieu, ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de l'Église de Dieu, que nous commençons à nous enfoncer dans les ténèbres. Nous vivons à une époque qui, comme aucune autre, nous permet, à vous et à moi, d'expérimenter quelque chose que le monde entier ne sait même pas ce qu'il cherche. Le monde pense qu'il peut voir, mais il est aveugle. Il s'agit d'un dernier passage dans le chapitre 60 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 60. Commençons par le premier verset d'Ésaïe 60, qui dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité épaisse les peuples, mais le Seigneur se lèvera sur eux et sa gloire se manifestera sur vous. » Dieu va montrer au monde que nous fonctionnions sous une lumière différente. Nous voyons avec des yeux différents, et les païens viendront à votre lumière. Nous serons Dieu. Nous produirons la lumière spirituelle que nous devons maintenant absorber et refléter. Nous aurons le visage qui produit la lumière. Les païens viendront à ta lumière et le roi à l'éclat de ton lever, de notre lever, mes frères. Sautons au verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans le pays, ni de ruines, ni de destruction dans vos frontières, mais vous appellerez vos murs salut et vos portes louanges. Le soleil ne sera plus votre lumière de jour. Le soleil ne sera plus votre lumière de jour, et la lune ne vous éclairera plus par sa clarté, mais le Seigneur sera pour vous une lumière éternelle, mais le Seigneur sera pour vous une lumière éternelle. Elle ne disparaîtra pas. Le monde aura une chance de voir la lumière que Dieu génère, la lumière spirituelle, et aura ensuite une chance d'en voir plus, et votre Dieu sera votre gloire. Votre soleil ne se couchera plus, et la lune ne se retirera plus, car le Seigneur sera une lumière éternelle, et les jours de votre deuil seront terminés. Il y a un moment qui arrive très bientôt où vous et moi allons pouvoir en faire partie. Souvenons-nous qu'en marchant, en vivant et en faisant toutes les choses qui exigent de nous, en tant que chrétiens, que nous reflétions la lumière de Dieu, que nous soyons cette ville située sur une colline, que nous soyons la lumière de ce monde, que nous sachions qu'en fin de compte, ils le comprendront. Lorsque nous faisons cela, nous les voyons avec des yeux différents. Nous les voyons avec des yeux spirituels, comme le ferait Dieu. Dieu voit tout, mes frères, vos épreuves, vos tests, vos triomphes. Voyons aussi avec une lumière spirituelle, regardons avec des yeux spirituels jusqu'au moment où le monde entier pourra partager cette même vision.